88.3
Radio Campus 88.3.
Ce soir, faudra lui donner un calmant, hein.
Il ne faut pas généraliser. Tous les jeunes qui écoutent ce type de musique ne sont pas des drogués. Pas forcément.
Les jeunes sont des cons.
Bah, Radio Campus en est un bon exemple.
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État au jour déclenché à Turin, au palais de la
Sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il provoque une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bonsoir et bienvenue à vous sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. À bâton rompu démarre, à bâton rompu magazine d'infos hein, sur les sujets d'actualité tous les mardis entre 19 et 20 heures. Avec ce soir une émission essentiellement consacrée aux deux manifestations contre l'extrême droite la semaine dernière à Orléans. Steven et Thomas qui sont avec moi dans le studio, bonsoir les jeunes gens.
Salut.
Salut, salut.
Vous étiez à la manif de mardi.
C'est ça.
Thomas, tu en as fait un article pour Larry Dagpop, hein, c'est le magazine, comment dire, le blog.
Bah, notre blog, notre média participatif et citoyen, porté par Radio Campus Orléans.
Allez voir ça, mais on diffusera dans cette émission-ci une interview très intéressante, je trouve, de deux étudiantes. Et Steven, tu as également rencontré plein de gens.
Oui, j'ai fait un peu le tour de la manif du 11 juin, et donc j'ai rencontré des élus, des étudiants, des vieux, un peu de tout.
Eh bien, tu nous diras qui c'est. Mourad, de lui, s'est rendu à la manifestation de samedi à l'appel de l'intersyndicale, donc les syndicats du Loiret. Il nous en parle pour démarrer cette émission. Hein. Victor, j'ai pas dit bonjour.
Ah bah non, oui. tu m'as pas annoncé.
L'histoire.
Oh, le respect.
Le pire, c'est que je l'aurais fait de toute façon. Oui, attends, oui. Le pire, c'est que c'est le gars qui m'offre à boire quand il arrive tout à l'heure. Je suis impardonnable.
Ingrat.
Salut Victor.
Salut Hassan. Bonsoir à toutes et à tous.
Ouais, tu as participé également avec moi tout à l'heure à l'interview
de Mourad, ouais.
De Mourad pour démarrer cette émission sa chronique hebdomadaire où on parle donc de cette manifestation à l'appel de l'intersyndicale, c'était samedi. Chaque fois, il y a eu 2000 personnes, ce qui est pas mal pour Orléans.
À Poitiers aussi, il y a eu 2000 personnes.
À Poitiers aussi, mais de toute façon, en France, il y a eu beaucoup de monde hein, sur ces appels à manifester contre l'extrême droite. Ça veut dire que ça intéressait des gens.
Bah oui, il faut croire que la jeunesse s'emmerde encore dans le Front National. Quoi.
Mais c'est la jeunesse qui a voulu aussi rester, sur la manifestation de mardi à laquelle j'étais. C'est elle qui a remonté ensuite en direction du parvis de la cathédrale et qui est restée, rester.
Ils sont restés pour un petit peu pour échanger.
Alors je ne suis pas resté moi jusqu'à très tard pour vérifier jusqu'à quelle heure ils sont restés, mais en tout cas c'est eux qui ont remonté vraiment.
Voilà. On est resté jusqu'à quand même pas assez tard.
Ouais.
Une petite heure, je pense.
Et ben, dans vos différents sons, on écoute ces jeunes-là et c'est très, très, très intéressant, mes auditeurs et auditrices, à écouter. À bâton rompu, c'est jusqu'à 20h. Bienvenue.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir, Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Hassan.
Bonheur de te retrouver, hein, comme tous les mardis, avec Victor et Steven avec moi en studio. Pour ta chronique de début d'émission Mourad, 2000 personnes dans les rues à Orléans samedi dernier contre l'extrême droite à l'appel de l'intersyndicale du Loiret. Tu étais dans le cortège.
Absolument, et effectivement c'était un appel syndical et donc qui posait la question de savoir en quoi et quelle est la place, en quoi les syndicats étaient légitimes à appeler à un rassemblement politique, éminemment politique, et quelle était la place des syndicats dans cette campagne législative. Et donc effectivement je me suis tourné vers un représentant syndical notamment, et j'ai discuté évidemment avec plusieurs syndicalistes sur la place qu'ils pouvaient occuper, la légitimité qu'ils avaient à agir sur un terrain politique, sachant que Il y a une règle séculaire qui fait qu'il y a une séparation entre les syndicats et les partis politiques, mais que là, face à l'urgence, les choses bougent un petit peu avec des justifications qui me semblent tout à fait entendables.
Et tu as rencontré Hugo Reiss, syndicaliste à Solidaire, il est salarié de La Poste, je crois.
Oui, absolument.
Voilà, et tu lui as demandé la raison de sa présence, évidemment, et il te répond.
Évidemment, parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir et que ça nous semble quand même un message en tant que syndicaliste très urgent et très. Faut le prendre au sérieux. Et donc, nous, le message qu'on veut adresser, c'est à la fois à l'extrême droite qu'on refuse sa présence, et nous, en tant que syndicaliste, on veut dire aux forces de gauche qu'ils ont fait des promesses et que nous, on sera dans la rue soit pour leur rappeler qu'ils ne les ont pas tenus, soit pour faire pression aussi pour le gouvernement, parce que c'est à ça aussi que sert le mouvement social, ça va être une pression dans la rue par rapport aux forces qui seront élues.
En quoi l'extrême droite est un danger pour le monde du travail ?
Ah bah c'est très simple, c'est qu'on le sait très bien, alors pas que pour le monde du travail, pour les femmes, pour les homosexuels, pour les trans. Donc en gros, c'est un danger pour toutes les forces de progressistes. Dans le monde du travail, on voit bien que son programme est là. Bardella commence à rétro-pédaler par les mesures sociales soi-disant qu'ils vous mettent en place. Donc dans tous les cas, on voit ce que ça donne dans les autres gouvernements. Javier Milei qui est en Argentine, qui a fait des retours, Giorgia Meloni. Donc on sait très bien que évidemment les forces d'extrême droite ne sont pas des forces progressistes au pouvoir.
Quelle va être la prochaine étape avant le premier tour des législatives?
On va venir me dire la pression et mobiliser les personnes. Alors nous, évidemment, en tant que force syndicaliste, c'est pas notre rôle de faire campagne électorale, mais c'est de dire, nous, on est là pour refuser l'extrême droite. Alors évidemment, pour une fois qu'il y a union des camarades, nous, on aura des discussions pour savoir si on appelle ou pas à soutenir, à voter. Ça n'a pas été tranché dans notre organisation, en tout cas. Je sais que dans d'autres, il y a des appels, notamment dans le 93, je crois que celui d'éducation 93 appelle à voter. Nous, c'est pas encore tranché. Donc on sera là, évidemment, pour mobiliser, pour discuter avec les collègues et pour rappeler aux collègues qu'il ne faut pas voter Rassemblement National. Et donc, évidemment, il ne faut pas voter Rassemblement National. On ne votera pas pour Macron. Donc voilà, dans le creux, il est possible que, en tout cas, il n'y aura pas d'appel au vote, peut-être clair, mais en tout cas, il n'y aura pas d'appel au vote pour les autres.
Voilà, il n'y aura pas d'appel pour les autres. Hugo, tous les autres syndicats disent à peu près la même chose. Mourad, on ne va pas appeler directement à voter pour tel ou tel parti, mais dans le discours, les gens pourront comprendre ce qu'on veut, c'est ça ?
Oui, absolument. C'est un peu du Mbappé dans le texte. C'est-à-dire que on ne cite pas nommément, mais on devine pour contre qui d'abord il faut se mobiliser. Et donc, par déduction, parce que les électeurs sont pas, et les syndicalistes, les syndiqués, pardon, et les travailleurs sont pas complètement idiots, on devine évidemment vers où pencher pour contrer efficacement. Je dis bien efficacement le RN, très clairement. Oui.
Victor.
Oui, on a eu le même problème à Radio Campus Orléans parce qu'effectivement, nous portons des valeurs d'humanisme, des valeurs liées à la défense des droits des LGBT, la défense des migrants, des étrangers, etc. Et on appelle les gens à voter. Donc, en conséquence, on espère qu'ils fassent le choix de la meilleure façon possible, mais on ne peut pas, en tant que média, appeler à voter pour tel ou tel candidat.
Oui, absolument. Même si, voilà, en filigrane, on devine évidemment la solution la plus efficace, et à chacun de prendre ses responsabilités, à chacun d'interpréter la manière dont le message est diffusé, et notamment par les syndicats.
Ouais. Ce que dit Hugo Reiss, c'est aussi important sur l'extrême droite au niveau international. Il a cité l'Argentine, Javier Milei, il a cité Giorgia Meloni en Italie. On voit très bien l'extrême droite arriver au pouvoir par la poussée de gens qui sont désespérés pour certains. Et puis tout d'un coup, on voit qu'il y a
Rétropédalage, on l'a vu depuis quelques jours, Jordan Bardella qui disait qu'ils allaient revenir sur la loi retraite, dit que ça sera conditionné. Tu t'attends aussi à ça, Mourad, une extrême droite au pouvoir qui rétropédale et que ça
oui,
fasse,
mais alors je...
et que ça fasse des millions de cocus.
Oui, mais je fais attention à ce discours-là parce que alors c'est pas exactement le discours que tient Hugo, hein. Mais je fais attention à ce discours parce que ça sous-entendrait que bah, finalement c'est pas si grave que ça, que finalement il va y avoir des cocus effectivement, mais qu'ils vont revenir sur un certain nombre de décisions, notamment concernant peut-être par extension l'immigration, sur un certain nombre de choses rétrogrades, et du coup que ce serait pas si grave que ça de voter finalement pour le RN et notamment pour la bourgeoisie au sens large du terme et pour le patronat, que finalement les patrons ont plutôt intérêt, même si les patrons historiquement ont toujours été du côté de l'extrême droite, mais je veux dire dans leur globalité, plutôt le fameux plutôt Hitler que le Front populaire. Mais voilà, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il y a un vrai danger et que sur les principales mesures, notamment, même si comme tu dis, hein, le monde du travail peut largement être cocu, notamment sur la question des retraites, les questions essentielles des droits de l'homme, notamment, elles, on ne sait pas comment ça va tourner et il vaut mieux ne pas prendre le risque quand on voit notamment ce qui se passe en Argentine, par exemple.
Ouais, et évidemment, il faut appeler les gens à voter. D'ailleurs, oui, un point là-dessus, on a vu que les procurations, le nombre de procurations augmente, explose même. Tu l'analyses comment?
Alors, il y a deux facteurs, parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à différencier les différents groupe de procuration et notamment le fait que ce soit au moment des vacances, voilà, ça pose un problème, c'est-à-dire que les gens seront, une partie des gens seront partis, une partie des électeurs seront partis et ne veulent pas louper le coche, notamment pour le 7. Donc, on ne sait pas trop pour l'instant si c'est un regain d'intérêt fort pour se mobiliser contre le Rassemblement national ou si c'est simplement mécaniquement dû au fait que ça va tomber en plein début des vacances. Donc là, j'avoue que j'aime bien dire je ne sais pas. Là, je dis que je ne sais pas parce que j'ai pas de, je veux pas extrapoler quelque chose, un phénomène comme ça qui serait diabolique, sachant que aux européennes, il y a eu une participation record. Donc, on peut s'attendre effectivement qu'à une élection aussi importante nationalement que les législatives, il puisse y avoir effectivement un intérêt particulier pour ce scrutin primordial.
Oui, alors, dans ces cas-là, il faut se tourner vers les experts, je crois. J'ai entendu sur France Info ce midi un professeur d'université à Lille, à Sciences Po Lille même, qui disait que s'il y avait autant de procurations, c'était pas mauvais pour la gauche, parce que l'extrême droite ne faisait pas autant de procurations que ça. Est-ce que tu le crois ou pas?
Oui, oui, c'est possible. Le vote RN est un vote plutôt pépère. Quand on va faire la démarche d'aller au commissariat, faire sa procuration, qu'on va se déplacer, qu'on va s'organiser, qu'on va trouver quelqu'un, parce qu'il faut trouver quelqu'un pour porter la procuration. Hein. La procuration, il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Donc, a priori, c'est plutôt militant. Et quand on pense militant dans la situation et dans la période actuelle, on pense effectivement plutôt au nouveau Front populaire qu'au RN, effectivement.
Steven?
Ouais, non, je voulais. Après, on peut quand même se dire qu'il y a une mobilisation plus importante que d'habitude. Je pense à la tribune des sportifs qui a été signée, enfin, et qui appelle à ne pas voter l'extrême droite. Je pense aussi aux influenceurs comme on a eu Squeezie, des plus connus qui appellent à voter contre l'extrême droite. À minima, je pense qu'il y a quand même des personnes qui n'avaient pas l'intention d'aller voter et qui, avec les mobilisations des loisirs, ouais, on pourrait dire ça comme ça, qui vont se mobiliser pour aller voter, après extrême droite ou pas, mais voilà.
Mourad?
Oui, alors je honnêtement, l'influence de ces cercles-là, j'ai du mal à le capter. On l'a vu alors avec Taylor Swift par exemple aux États-Unis, contre Trump. On a vu que ça a eu une influence, que ça va sans doute avoir une influence. On a vu comme ça des phénomènes, notamment sur la Palestine. Là, en France aujourd'hui, sur la jeunesse notamment, hein, puisque ça touche un public plutôt jeune, je pense aux 18, enfin même pas d'ailleurs, parce que Squeezie c'est plutôt même les 16-25 ans. Honnêtement, je ne sais pas quelle influence ça aura. Alors c'est très bien qu'ils se soient mobilisés. Après voilà, c'est une guerre entre influenceurs. Je pense notamment à l'autre là, Thibaut.
Thibaut InShape.
Ouais, c'est ça. Voilà, qui lui est dans le sens inverse. il te dit que Squeezie aurait perdu 100 000 adhérents adhérents, enfin 100 000 abonnés, pardon. Donc suite à sa prise de position, donc c'est tout ça est très compliqué. J'avoue que j'ai pas les clés pour ça. Hein. C'est pour moi c'est trop. C'est un monde que je ne connais pas bien, donc je préfère ne pas m'exprimer que de raconter des bêtises.
Eh ben nous sommes deux, parce que moi vous citez des noms, je ne comprends même pas du tout. En tout cas, dans la suite de l'émission, et j'espère que tu seras à l'écoute, Mourad, nous allons parler de cette manifestation qui a eu lieu mardi, avec des interventions de jeunes hommes et jeunes femmes,
oui, bien sûr,
qui disent des choses plutôt intéressantes. Deuxième chose que je voulais voir avec toi, c'est, je sais pas, quand tu as vu, enfin, quand le front de gauche s'est intitulé Nouveau Front Populaire, il y a eu des tas de gens, notamment le président Macron, qui a dit « Léon Blum va se retourner dans sa tombe ». Référence au Front Populaire, Léon Blum qui a dirigé ce Front Populaire dans les années 30. Le média sur lequel tu excelles a invité le petit-fils Antoine Malamud il y a quelques jours.
C'est même l'arrière-petit-fils, je crois.
C'est l'arrière-petit-fils, très bien. Et on lui a posé la question là-dessus sur l'antisémitisme supposé de LFI, plus précisément. Écoutez sa réponse.
Dans le passé récent, qui a été condamné pour antisémitisme? Quel parti? Quel dirigeant? La droite ou la gauche? L'extrême droite ou la gauche? Qui a été condamné dans un passé récent pour négationnisme, révisionnisme, etc.? Ce sont des sites dont on connaît les initiateurs et les propagandistes. Quels sont les organes de presse et les librairies qui publient, soit sous une version papier, soit sous une version internet, les pamphlets les plus orduriers, les textes de cette période, la droite ou la gauche? Non, il faut être sérieux, l'antisémitisme n'est pas au cœur de la pensée d'aucune force politique de gauche aujourd'hui.
D'accord avec ça, Mourad ?
Oui, il faut être sérieux, c'est exactement le résumé. C'est le seul, de toute façon, c'est l'extincteur du débat public, hein, j'en parle régulièrement dans mes chroniques, mais antisémitisme ou antisémite, c'est l'extincteur. Derrière, il n'y a plus rien à dire, ça désarçonne, ça désarme complètement la personne qui, elle, va faire un effort d'argumentation, et c'est complètement grossier, outrancier, c'est du Raphaël Enthoven dans le texte, c'est du Caroline Fourest dans le texte, et ils sont capables, y compris, comme l'a fait Enthoven récemment, d'accuser le militant, le vieux militant, mais je le dis avec affection, Gérard Filoche, qui a été blanchi par les tribunaux d'un tweet, un pauvre tweet qu'il avait envoyé en pleine nuit, alors qu'il n'avait pas fait gaffe que c'était un tweet, enfin c'était un dessin antisémite, parce qu'il y avait un tout petit drapeau israélien collé à une faux. Il s'en est excusé évidemment aussitôt, mais évidemment tout le monde a sauté là-dessus pour régler son compte à Gérard Filoche et l'exclure du bureau national du Parti Socialiste. Enfin, voilà, de nouveau, il est accusé d'antisémitisme alors que, voilà, il a été blanchi, donc il n'y a plus aucune rationalité dans tout ça. Et le problème de fond vis-à-vis de l'antisémitisme, c'est que toutes ces personnes, en fait, donnent de vraies armes, par leur outrance, de vraies armes aux vrais antisémites. Je pense aux Soraliens et d'autres, qui, eux, disent, regardez, il y a deux poids, deux mesures, ils accusent tout le monde d'antisémitisme, ce que font, alors je vous invite à vous tourner vers les réseaux sociaux et chercher la liste des candidats de la 8e circonscription des Français de l'étranger, celle qui comprend Israël. Il y a un candidat qui appelle ouvertement à créer des milices, à déchoir de la nationalité des gens qui sont soupçonnés d'antisémitisme. Alors, soupçonnés, vous imaginez, enfin voilà, tous les gens là qui sont accusés d'antisémitisme ne seraient déchus de la nationalité. Donc, c'est des outrances que si un quart de dixième de musulmans faisait le quart de dixième de ça, verrait les forces de l'ordre débarquer chez lui à 6 heures du matin, il serait placé en garde à vue. Le deux poids deux mesures fait que, il n'y a pas de réaction particulière. Et quand il y a des agressions, notamment de personnalités de gauche. Là, je pense à Émeric Caron, dont la permanence est régulièrement dégradée pour ses positions sur la Palestine. Là, il n'y a pas de coup de fil de Macron, il n'y a pas de déclaration enflammée de Darmanin, alors qu'ils ne se sont pas gênés, par exemple, pour prendre position sans qu'il y ait la moindre enquête encore lancée et dont on découvrira que certains actes antisémites, en fait, s'avèrent être des actes perpétrés par des juifs eux-mêmes pour des raisons personnel de vengeance, enfin voilà, qui ont été masqués par des actes antisémites. Donc il y a un deux poids deux mesures qui commence à devenir un peu gonflant et qui commence à avoir des répercussions, je pense, sur la fracture de la société française, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde médiatique. Et là, il joue littéralement avec le feu et le descendant de Léon Blum, je le salue, je vraiment, parce qu'il a très bien fait d'intervenir pour dire stop, arrêtez de jouer avec la mémoire de mon arrière-grand-père. Lui a connu le réel antisémitisme d'extrême droite et ça n'a rien à voir avec ce que vous reprochez aujourd'hui aux positions de la gauche sur la question israélo-palestinienne et que vous transformez la moindre critique de Netanyahou ou du génocide en cours, que vous transformez en propos antisémites. C'est absolument scandaleux et je pense que voilà, il a très bien fait. Je le salue vraiment très chaleureusement.
Antoine Manamoud, vous retrouvez l'entièreté de cette interview très intéressante sur Le Média, évidemment. Victor,
où je me trouve d'ailleurs, où je me trouve, je suis dans, oui, la cour absolument. Du Média actuellement. Parce que là ils sont en train de tourner, ouais. Je viens de finir ma chronique, là ils sont en train de tourner, donc je me suis mis à l'extérieur un peu en retrait, donc je suis dans la cour et oui, je remercie Le Média et je remercie Nadia qui a mené, ma consoeur Nadia qui a mené cette interview avec brio.
Absolument. Victor ?
Oui, moi je voulais revenir sur le fait qu'au final il y a eu un antisémitisme de gauche. C'est vrai, au partir du 19e siècle, il y a eu une forme d'antisémitisme de gauche qui s'est développée parce qu'il y avait une crainte des milieux d'affaires qui justement étaient des ennemis du progrès social et étaient principalement contrôlés pour des raisons historiques par des personnes d'origine israélite. Le fait est que la gauche a fait son aggiornamento de cette situation-là après l'affaire Dreyfus. Elle s'est rendue compte qu'effectivement, voilà, il y avait peut-être eu des trucs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à la droite, ça n'est pas dans ce logiciel. L'antisémitisme n'est absolument pas à l'origine de la pensée de gauche, contrairement à ce qu'elle est pour l'origine de la pensée d'extrême droite, que ce soit Hitler, que ce soit Maurras, que ce soit tant d'autres, etc. et tout. Alors que si jamais vous lisez Marx, si jamais vous lisez Jules Guedde, si jamais vous lisez n'importe quel penseur de gauche, à aucun moment l'antisémitisme n'est pointé comme étant une valeur fondamentale de la gauche. Et à mon avis, c'est ça la différence entre les deux. Après, je suis d'accord qu'il y a eu des dérapages, notamment par exemple Jean-Luc Mélenchon qui dit que l'antisémitisme en France est résiduel. Je pense qu'il s'est un petit peu voilé la face quand il a dit ça. Mais c'est pas du tout dans le même logiciel. Et à mon avis, il y a eu un appel là récemment de l'Union des étudiants juifs de France qui disait « Attention, l'extrême droite n'est pas notre allié. L'extrême droite n'a jamais été l'allié des juifs. » Ça a toujours été historiquement et consubstantiellement l'ennemi des juifs de France et d'ailleurs. Et c'est vrai que du coup, faut quand même rappeler cette situation. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est juste que l'antisémitisme n'est pas dans le logiciel de la gauche. Par contre, elle est dans le logiciel de l'extrême droite.
Voilà. Bien sûr. Alors moi, Victor, une première chose, je ne dis jamais consubstantiellement parce que c'est super chiant. Ça fait partie des mots casse-gueule que j'enlève de mon vocabulaire pour la presse parler. D'une part. D'autre part, c'est vrai, sauf que et j'en ai parlé ce soir dans ma chronique, il y a le brouillage des cartes, et notamment je pense à Klarsfeld. Quand Klarsfeld appelle à voter RN, le chasseur de nazis historique qui appelle à voter RN en disant que RN protège les juifs et défend les juifs de France et défend Israël, là on a un brouillage radar complet. Et donc le problème c'est de réussir à se frayer un chemin dans ce une espèce de magma profond où effectivement on ne sait plus trop, comme tu le dis toi, c'est un fait, c'est documenté, c'est argumenté, mais quand quelqu'un vient comme ça lancer une bombe comme ce qu'a fait Klarsfeld, ça pose question quoi. Et donc je pense qu'il va falloir vraiment batailler pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que les mots retrouvent un sens. Ouais.
Merci à toi Mourad, on te retrouve sur Le Média demain soir à partir de 18h30 il me semble.
Plutôt 20h30, mais enfin, on le retrouve sur la chaîne YouTube, très facilement à partir de demain soir.
Et on se retrouve ici mardi prochain à 19h.
Avec grand plaisir, bonne soirée, bonne émission et je suis à l'écoute.
Ciao Mourad.
Demande ta femme, la vie claque comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli ma rage. Car impossible, et cette paysan voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde a Colombé parti? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt quand on a la rage, le cœur
parce qu'on a la rage.
Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucle?
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
passons
tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses?
La rage
de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde. Que ce monde y adhère, parce que tout leur champ OGM stérilise la terre.
La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart.
La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage d'y croire et faire en sorte que ça bouge.
La rage
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage car ce monde voit rouge, mais de cris ça y s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour. Tant de grands apports ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant changer l'humanité.
La rage
car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage
car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux.
La rage
parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple,
l'ébullition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt quand on a la rage, le cœur.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt quand on a la rage, le cœur.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitalisme, altermondialisme, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain.
Inch'Allah. J'ai eu le bonheur suprême d'interviewer cette jeune fille 2007-2008, Kenny Arcana. Il faudrait que je retrouve l'interview. C'était une jeune fille, un peu petite, mais une boule de nerfs.
Ouais,
parce
ouais,
que
ouais.
Ce que vous avez entendu dans ce morceau qui s'appelle La Rage, l'album est sorti en 2006, c'est entre Ciment et
Belle Étoile.
Et Belle Étoile. Ouais, je pensais.
Moi, c'était ma chanson de manif.
Bah, je vois que.
Très manif.
Ouais, tu connaissais les paroles.
Ouais, ouais, ouais. C'est, j'écoutais ça avant d'aller manifester pour la loi El Khomri. Enfin, contre la loi El Khomri.
Contre la loi El Khomri. Non, vraiment, je pensais beaucoup à elle parce que ce qu'elle m'avait dit dans cette interview, ça se passe maintenant. Quoi.
C'est-à-dire que ça devrait être l'hymne des Insoumis.
Mais et j'ai plus de nouvelles du tout. Je crois. Bah, elle est Marseillaise. Elle avait créé justement avec des copains et copines. Elle nous parlait de ça à l'époque, de la rage du peuple dans un quartier de Marseille. Ils ont fait énormément de belles choses, notamment avec les jeunes. Kenny Arcana, écoutez Kenny Arcana, je crois qu'elle a sorti d'autres choses après Antimon et Belle Étoile.
Je vous conseille notamment les chansons Éconard, la chanson de l'Opéra à la Plaine qui réunit plein d'artistes de son quartier, etc.
Absolument.
Où elle fait chanter, où chacun fait 2-3 rimes, etc. Et, tout. Et aussi Odyssée d'une incomprise qui, moi, est mon préféré.
Ok. Ah bah tant pis, ça continue et on parle avec Steven de la manif de mardi dernier.
Abattons rompus sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
À toi, Steven.
Ouais, effectivement, on va parler du Front Populaire, la nouvelle alliance des forces de gauche. Bon, qu'est-ce que c'est? Je suis allé poser la question aux manifestants le 11 juin, place de la République.
Le Front populaire, c'est la masse du peuple qui s'est réuni avec l'ensemble des partis de gauche, le monde syndical et associatif. Je crois que c'est quelque chose que tout le monde attendait depuis très 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 longtemps, même s'il y a eu plusieurs expériences dans les différentes décennies que vous n'avez pas connues parce que vous êtes très jeune. Mais ceci dit, c'est quelque chose d'important. Parce que quand le peuple se réunit, le peuple travaille ensemble, c'est pas grand chose, hein, mais en 1936, quand le Front populaire a été mis en place, ça a été quand même les congés payés, ça a été quand même un certain nombre de choses pour l'amélioration des salariés et notamment des salaires décents. Et à la suite de ça, il y a eu plusieurs d'autres combats qui ont été menés et qui a permis, notamment après-guerre, juste avant 36, après 36, après-guerre, avec le Conseil national de la résistance qui a travaillé avec le monde syndical et politique pour mettre en place quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde aujourd'hui dans la population française. Ça s'appelle la case de retraite. Et la deuxième chose, c'est la carte verte qui s'appelle la sécurité sociale, qui est en perte aujourd'hui si on laisse faire les choses. Donc vous voyez, le rassemblement populaire des gens dans le bon sens du terme et de la gauche et des salariés et du monde syndical est très 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 important pour notre pays, mais très important pour l'ensemble de la population.
Alain Le Faucheux, conseiller municipal Fleury-les-Aubrais.
C'est ça. Et le peuple, quand ça fait pas grand chose le peuple, hein, ça fait juste énormément. Mais bon, revenons un petit peu en arrière avant. À l'annonce de la manif, Hassan, il m'a appelé, il m'a dit:
c'est vrai.
Lâche-toi.
Il m'a dit lâche-toi. Absolument.
Ça tient toujours, hein.
Oh, mais vas-y.
Okay. Non, mais je voulais savoir. Mais t'inquiète, hein, j'ai un peu lissé mon texte. Hein. Dans ma première version, je disais que RN et LR, c'était fachis et fachos dans une pièce, que la Macronie n'était composée que de gros bâtards, que Macron et Attal étaient les paillassons de l'extrême droite.
Mais non.
Mais tout ça, c'était dans ma première version, et là, du coup, j'ai retiré tout ça. Je voulais revenir sur la défaite de la gauche aux européennes. Honnêtement, qui a été surpris, sérieusement, hein? Non, personne, visiblement. Hein, il suffit de voir le déroulé de la campagne pour comprendre le résultat. Hein, le bashing politique et médiatique contre la France insoumise, la création d'un pantin médiatique socialiste, ou encore l'absence dans les débats des questions écologiques. Hein. Bon, ce sont quelques exemples, hein, mais voilà, faut pas aller chercher plus loin. Hein. Sur LFI, hein, les conneries qu'on pouvait entendre à longueur de journée, du genre, ouais, ils veulent les votes de musulmans. Ils ont fait 9,89%. 9,89%. OK ? Donc, j'ai juste une question. Ils sont où les musulmans ? Oh, putain ! Ceux qui doivent grand remplacer les Français, là. Putain, si Mélenchon, il voulait des votes, il aurait dû miser sur quelque chose de gagnant. Moi, je sais pas, le racisme, hein. Ça plaît aux bourgeois, visiblement, en ce moment. Pas qu'en ce moment. Mais, par exemple, sur l'écologie aussi, Europe Écologie, les Verts faisaient. Je n'y suis pas encore à ça. Faisait jusqu'à cette élection des scores plutôt élevés aux européennes. Hein. Donc, au mieux, l'écologie n'intéresse plus ou pas les Français. Au pire, les Français sont plus racistes qu'écolos. Bon, je vous laisse vous faire votre avis. Hein. Je lisse mon propos, toujours. Rappelez-vous les médias qui, au moment des débats, ont permis à l'extrême droite de faire l'impasse sur les questions écologiques au profit de l'immigration. Maintenant, je sais même plus ce qui va me tuer. C'est ça qui est ouf. Hein. Je sais plus si c'est la dégradation de l'écosystème, la qualité de l'air et du manque de ressources, ou bien le fascisme. Bon, voilà. Et la Macronie dans tout ça.
Hein, quoi ?
La Macronie. Ouais. Hein. C'est notre cher président et son groupe. Le groupe présidentiel semblait réellement surpris et désorienté par l'annonce des résultats. Le gars, il joue sur le terrain de l'extrême droite toute l'année et ça le surprend. C'est du genre, tiens, je savais pas qu'après m'être fait sucer par un crapaud, j'allais avoir des verrues sur la bite.
Mais non,
non. Mais c'est un peu ce que ça m'a fait, tu vois. Genre. Bon, Non, mais le Parti Renaissance a fait voter une loi immigration qui est considérée comme une victoire idéologique du Rassemblement National. Le Parti Renaissance n'a eu de cesse d'invoquer le barrage républicain pour faire obstacle à la NUPES. Le Parti Républicain préfère débattre avec le RN, le plaçant comme un adversaire légitime. Le Parti Renaissance est composé d'irresponsables, avides de pouvoir et déconnectés des réalités sociales. Et à la manif, y en a un qui m'a bien résumé tout ça sur ce qu'est la Macronie et le RN.
Le Rassemblement National, c'est la politique de Macron, plus le racisme, plus les atteintes aux libertés supplémentaires.
Donc voilà, là, celui que vous venez d'entendre, c'est Christian Barbotin, secrétaire au département du PCF de Loiret. Et Macron, dans tout ça, hein, ce pauvre débile, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est dissoudre l'Assemblée nationale. Franchement, j'en peux plus de ce gars. C'est le président de la République. Et à un moment de crise, tout ce qu'il trouve à faire, c'est « Tiens, je vais jeter ma grenade et dissoudre l'Assemblée. » Et Macron, prends ta retraite. Toi, tu peux le faire. Hein. Personne t'en voudra. Garde tes idées pour toi, au lieu de nous faire tout chier.
Oh là, oh là, attends. J'ai même baissé mon micro. Là. Ah non, mais attends. Oh là, oh là. Oui, alors, donc, le rassemblement a réuni énormément de personnes. On y revient.
Ouais,
tranquillement,
ouais.
Qu'est-ce qui les a mobilisés?
Bah, je te laisse écouter un des manifestants qui nous en parlait un petit peu de...
Pour moi, c'est un grand mensonge que de s'appeler Rassemblement National, parce que ce sont des gens qui ne font que chercher la division et chercher ils cherchent à exclure des gens, à expulser des gens et à mépriser plein de catégories sociales et de certaines religions, de certaines couleurs de peau, et que ça m'est insupportable, et que je ne comprends pas que les gens oublient autant l'histoire de ce parti et les fondements de ce parti.
Eh oui, j'ai cru reconnaître la voix de M. Stern.
Ah, alors là, peut-être, je ne sais pas. C'est un monsieur, j'ai pris un monsieur au pif.
C'est un acteur, un directeur de théâtre, et très mobilisé depuis des années, si vous saviez. Et il est toujours là, dans la rue.
Voilà,
Bravo, Christian. Bravo.
Oui. Du coup, j'ai eu même des jeunes. Hein. Les jeunes étaient beaucoup mobilisés le 11 juin, oui. Et donc, je vous laisse écouter un petit peu une petite réaction à chaud.
C'est la solution. Enfin, je vois pas comment on peut marcher autrement. On est plein de branches de gauche différentes. Si on se sépare aux élections législatives, c'est foutu. On va avoir un gouvernement totalement fâcheux pour les prochaines années avant les élections présidentielles.
En fait, on a forcément des axes communs qui fait qu'on peut se réunir et on doit en profiter parce que c'est la seule manière qu'on a de réunir assez de voix pour faire opposition au Rassemblement National. Parce qu'on l'a bien vu, que ce soit aux européennes ou aux dernières législatives. Enfin, aux dernières législatives, on avait la NUPES, mais il y avait d'autres partis.
Pardon.
Il y avait d'autres partis qui ont fait qu'on s'est dispersé, et c'est vraiment un problème parce que c'est pas en se dispersant qu'on peut gagner, en fait.
Eh oui.
Ouais, tu vois, même les jeunes, ils sont basés. Mais bon, allez, on va parler un peu calmement, on va poser les termes. Hein. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces législatives? Macron nous parle de désordre, mais il en est le responsable. Hein. Après tant de maltraitance, après les gilets jaunes, après la loi sur le séparatisme, la réforme des retraites, après Sainte-Soline, après les révoltes urbaines, après l'Abaya, France Travail, la loi immigration, après la réforme de l'assurance chômage. Non, définitivement, Macron est l'un des responsables du désordre. Lui, son gouvernement et ses parlementaires ont constamment joué sur l'ambiguïté. La défenseur des droits, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'ONU, la CEDH... Les associations de défense des droits de l'homme, les partis politiques de gauche, la société civile, les médias indépendants, les pays voisins, tous ont alerté des risques que Macron et ses sbires prenaient en affaiblissant la démocratie. En jouant avec la matraque plutôt qu'avec la discussion, en envoyant ses chiens de garde sur les plateaux télé d'extrême droite défendre des idées fascistes, en confirmant les fantasmes les plus racistes et xénophobes, Macron et cette campagne européenne raciste ont offert les clés du pouvoir au RN. Aujourd'hui, le fascisme est aux portes du pouvoir. Mais l'histoire n'oubliera pas que c'est la Macronie qui lui a déroulé le tapis rouge. Le monde brûle. Il brûle des divisions sociales. Il brûle des causes du dérèglement climatique. Il brûle par la montée du fascisme. La population doit se mobiliser. Elle l'a déjà fait et elle le fera. Cette fois-ci avec le Front Populaire.
De nombreuses personnes votent pour le Rassemblement National parce qu'ils sont désespérés depuis des années qu'on leur promet quelque chose. Donc, le changement, on doit le réaliser et il est sous la protection du mouvement social. Et nous, on soutiendra le mouvement social. Il faut les luttes.
Il faut les luttes. Il faut les luttes. Monsieur Barbotin, par contre.
C'est ça, exactement.
Barbotin, secrétaire départemental du Parti communiste du Loiret.
On parle beaucoup de la bataille législative, mais les groupes d'extrême droite s'agitent en ce moment. Ils prennent un peu la confiance. Plus que jamais, la gauche a besoin d'un front antifasciste large, conséquent, déterminé et unitaire. Le Front Populaire sera peut-être notre arme contre l'extrême droite. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Surtout quand on voit les rassemblements de la semaine dernière. Donc voilà. Bon, on en est là. Je pense que je vais laisser les jeunes conclure à ma place.
On serait tenté de l'insulter, mais je pense que c'est pas la solution parce que malheureusement, ça représente une majorité et ça dit quelque chose d'assez triste sur notre génération. Est-ce que c'est la désinformation qui a fait ça ?
Lisez les programmes. Vraiment, lisez les programmes.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on dirait à la jeunesse qui vote Bardella ?
On vient de dire qu'on les insulte pas.
Faut lire les programmes, faut s'informer, faut arrêter de croire à la démagogie, faut arrêter d'être raciste éventuellement.
Non mais puis regardez les débats aussi parce que quand on voit le mec.
Faut arrêter d'écouter les parents.
Sortir de TikTok aussi, arrêtez de vous informer sur les réseaux sociaux comme TikTok.
C'est news, c'est nul.
Essayez de trouver plusieurs sources différentes.
Soyez de gauche.
Non, c'est pas ça. Mais non, juste faut arrêter d'écouter les parents, faut arrêter de faire comme tout le monde et faut réfléchir avant de voter, c'est tout.
C'est ça. Pour réfléchir, les filles.
Soyez des gars.
C'est le peuple.
J'adore. Et ouais, il y avait des jeunes comme ça que vous avez rencontrés.
Ouais, ouais, franchement, c'était top.
On va continuer. Ouais, on va mettre quand même un jingle le temps qu'on nous respirions un peu parce que c'était vraiment très drôle et très très beau. Alors allons-y, jingle. Où est-ce que je le trouve? Je le trouve là. Alors, il est où? Et il n'est pas là.
Eh ben alors.
Allez, jingle.
Abattant rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
On va continuer avec toi, Thomas. Tu as rencontré également des jeunes filles. Allez voir sur le site de la rédac Pop. Tu as notamment rencontré Laetitia, Camille et Margot. On ne va pas les écouter, elles. Mmh. La deuxième interview était super intéressante. Elodie et Elisa sont des étudiantes. Une qui est à Sciences Po,
oui.
L'autre en droit ici. Donc, plutôt informé, tu leur poses même la question hein, pendant cette interview. On va la laisser en intégralité parce qu'elle dure 7 minutes et c'est vraiment très intéressant. On y revient après ou tu veux...
On peut après évoquer... On peut un peu évoquer l'ambiance aussi peut-être absolument. De cette manifestation, de ce qu'on a pu voir aussi. Hein, donc ouais, mais je te laisse...
Dis-moi.
Bah écoute, dans cette manifestation, comme tu disais, il y a eu beaucoup de monde. C'était vraiment rempli au niveau de la place de la République, très intergénérationnel, avec une présence de beaucoup, beaucoup de jeunes. Et finalement, ce que vous allez entendre aussi avec cette interview donc d'Elodie et Elisa, c'est justement ce phénomène TikTok qu'on entend très fréquemment, la forme entre guillemets qui surpasse le fond aujourd'hui, parce que vous présentez bien sur un réseau social branché, parce que vous êtes entre guillemets charismatique, voilà, vous arrivez à attirer très rapidement de la sympathie. Alors bien évidemment, c'est l'illustration aussi d'une colère entre guillemets populaire que l'on peut sur laquelle on peut revenir également. Moi, je m'étais noté quand même cette petite sociologie de des électorats qui est quand même assez, assez criante. T'as 53% des ouvriers qui vont voter Rassemblement National sur la dernière élection européenne, notamment. Donc c'est sondage Ipsos hein, pour le coup. Donc y a bien cette illustration de la colère populaire, mais mêlée également à ce peut-être aujourd'hui ce manque d'éducation aux médias qui est criant aujourd'hui. Aujourd'hui, on met sur le même plan des paroles politiques, des informations, peu importe la source, peu importe où ça vient, peu importe ce que l'on raconte, du moment que c'est bien présenté, du moment que c'est voilà que c'est vendeur. Ton interlocuteur de tout à l'heure que tu avais aussi cité, qui parlait du Rassemblement National, rien que justement cette fameuse décoration du Rassemblement National plutôt que Front National, on rassemble aujourd'hui, on est bien, voilà, on se fait une belle image alors qu'en réalité l'arrière-boutique reste la même. C'est celle qu'on a toujours connue depuis les années 70-80, un parti qui a été fondé en partie par des anciens SS notamment, des anciens collabos.
Il faut le répéter, il faut le dire, vraiment.
Voilà, et avec effectivement cette idéologie antisémite qui continue à rester en fait justement dans cette arrière-cuisine. C'est-à-dire que quand on voit un meeting de Bardella, par exemple, moi j'avais vu certains journalistes qui tweetaient et qui montraient en fait justement à quoi ressemblait cette arrière-boutique, c'est-à-dire des manifestants d'ultra-droite qui étaient vraiment avec des slogans extrêmement racistes, tout ce qu'on peut imaginer de pire en gros, et qui sont là en train d'écouter ces meetings et qui sont là à attendre surtout, attendre le grand jour. Quoi. Voilà.
Mais en tout cas, ce jeune homme. Vas-y.
Déjà, sur l'extrême droite, il y a un truc qu'on commence à entendre en ce moment et qu'on entend de plus en plus, c'est on ne peut pas dire que ça a été créé par d'anciens SS.
C'est ça, on
oublie. C'est pas une opinion.
C'est un fait. C'est factuel.
Il faut bien rappeler que ça, on ne peut pas le contester, c'est un fait. Et l'autre chose que je voulais dire, c'était par rapport au rassemblement là du 11 juin, c'est que c'était intergénérationnel, mais aussi interclasse. Il y avait on avait un peu de tout, des avocats, des étudiants, des travailleurs,
des ouvriers, des retraités, des étudiants précaires, comme tu dis, des professeurs aussi. Oui, il y avait notamment une dame âgée de plus de 80 ans parmi les témoignages que vous pouvez retrouver sur la rédac Pop, qui est une enseignante de lettres, il me semble.
Et intersectionnel. exceptionnel aussi, ouais, parce qu'on avait, la Palestine, le collectif LGBT aussi qui était présent. Enfin, oui, on avait vraiment beaucoup de milieux de gauche en fait qui étaient réunis. Et c'est ça qui fait plaisir à voir et qui est assez exceptionnel d'ailleurs.
Et avant que tu lances le son aussi, un petit message d'espoir également par rapport à la jeunesse qui n'emmerderait plus le Front National. Alors c'est vrai qu'elle emmerde peut-être moins le Front National qu'avant, mais pareil, si je ressors aussi la sociologie des électorats, notamment les 18-24 ans, eh bien on votait à 25% pour le Rassemblement National. Alors effectivement c'est un quart, c'est beaucoup, c'est quand même en dessous des 31,4% en matière générale, et surtout ça a voté 33% pour LFI.
Très très bien, ça c'est des chiffres Ipsos.
Ipsos, tout à fait. Un sondage commandé entre le 6 et le 9 juin, notamment par Radio France, LCP, Public Sénat notamment.
Et un mot quand même pour dire, pour parler des extrêmes, sachez-le, le Conseil d'État a dit... Le Conseil d'État, quand même, c'est des gens qui réfléchissent et qui lisent.
Des extrêmes gauchistes.
Rassemblement National est un parti d'extrême droite.
Exactement.
Par contre, LFI n'est pas un parti extrême.
Totalement.
C'est le Conseil d'État.
Et il faut bien le rappeler.
Il faut le dire.
Le Conseil d'État aussi est basé. C'est bon.
Non, mais c'est ça. Aussi, c'est des islamo-gauchistes. Voilà.
Maintenant, je vous invite à écouter Élodie et Elisa. Elles se présentent elles-mêmes et écoutez ce qu'elles disent. C'est vraiment très intéressant. Bravo.
Alors moi je m'appelle Elisa, j'ai 18 ans et j'étudie à Sciences Po à Paris.
Et moi c'est Élodie, j'ai 19 ans aussi et je suis à la fac d'Orléans de droit.
Les résultats, je trouve que c'est désolant, mais ça correspondait à peu près au sondage, donc j'étais pas étonnée. Et la dissolution, j'avoue que je m'y attendais pas. Après, je sais pas si c'est une stratégie ou si c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas, je peux pas trop me prononcer.
L'étudiante de Sciences Po que tu es, même elle n'arrive pas à analyser la stratégie politique.
Après, voilà, j'ai pas la science infuse, mais j'espère que c'est pour que tout le monde s'énerve contre la nouvelle majorité et qu'après, ils puissent pas avoir et la majorité à l'Assemblée nationale et la présidence. Mais
ça a été assez incroyable parce que je m'attendais pas du tout à un tel résultat et une telle hausse comparée à l'année dernière. Et puis aussi, c'est sûr que après la stratégie qu'aurait eu Emmanuel Macron, ce serait de rassembler tout le monde contre l'extrême droite. Mais je trouve ça super risqué de se lancer dans un tel projet parce qu'à tout moment, l'extrême droite, elle va prendre tout le pouvoir et après, ce sera encore pire que tout, quoi.
Je trouve ça inquiétant parce que moi, j'aime pas trop ceux qui votent à droite, mais je peux encore comprendre qu'on vote à droite, mais alors qu'on vote pour quelqu'un qui, on l'a vu, n'a pas du tout posé beaucoup d'amendements par rapport aux autres partis, déjà au Parlement européen. En fait, il a même pas fait d'études. Et en fait, ça relève vraiment de la bêtise et de l'ignorance des gens. Et ils cherchent juste quelqu'un de charismatique. Et c'est vraiment inquiétant d'être si peu renseigné, je trouve. Si ils voulaient voter à droite, ils auraient pu voter pour quelqu'un d'autre.
Et pareil, quand on voit les débats qui circulent entre eux, entre M. Bardella et d'autres politiciens, on voit très bien qu'il n'a pas forcément d'arguments, qu'il ne sait pas forcément se défendre sur ses idées et que finalement, dès qu'on trouve un argument contre lui, il ne peut même pas riposter parce que c'est illogique.
On a pas mal d'amis qui votent pour Bardella et en fait, moi je pense que ça vient de plusieurs facteurs. Déjà, le fait qu'il soit très présent sur les réseaux sociaux et notamment TikTok. Et donc, on a vu aussi, il y a des statistiques qui ont été révélées, comme quoi il est beaucoup plus apparu à la télévision. Donc, je pense que ça a joué beaucoup. Et il est charismatique, donc forcément, on a envie de le suivre. Mais après, si on écoute ce qu'il dit, c'est creux, c'est complètement vide. Et nous, nos amis qui votent pour Bardella, c'est typiquement ceux qui ont séché les cours d'histoire, quoi. Ils s'intéressent pas à la politique, ils suivent pas les débats et après ils viennent nous dire qu'on a tort. C'est lamentable.
Mais oui, en fait, dès qu'on essaye de leur donner nos idées, c'est très non, de toute façon vous avez tort, de toute façon c'est lui qui a raison. Et puis même ce matin, j'ai vu un TikTok où ça disait pourquoi vous avez voté pour Monsieur Bardella, il est beau, il donne confiance, il a un certain charisme. Mais en fait, on ne peut pas élire un politicien simplement parce qu'il est beau et qu'il a du charisme. Il faut qu'il ait les idées derrière et simplement des arguments fondés pour justement que la France et l'Europe aillent de mieux en mieux, quoi.
On ne peut pas trop prédire l'avenir, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout de voir aussi les résultats des européennes dans les autres pays et que la France n'est pas du tout le seul pays qui a voté majoritairement à droite, voire à l'extrême droite. Donc, c'est pas vraiment le résultat de la France, mais c'est le résultat de toute l'Europe qui m'inquiète beaucoup. Après, je dirais pas que j'ai peur, parce que justement la peur, c'est ce qui alimente ces partis et c'est ce qui crée le désordre. Donc j'ai pas peur, mais je suis déçue, voilà.
Bah moi, je pense, franchement, je dirais que j'ai peur, parce que quand on voit les résultats qui sont quand même, il y a une grande marge entre l'extrême droite et les partis centristes ou les partis de gauche. Bah on se dit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui sont pour l'extrême droite et bah à côté de ça, les gens, je pense pas qu'ils vont forcément changer d'avis entre là les élections européennes et les élections législatives. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal peur, mais bon, faut continuer à avoir espoir, quoi, pour que les gens ouvrent les yeux.
Dans tout le programme scolaire, que ce soit en histoire, en EMC, on souligne que c'est important de ne pas se laisser influencer, de toujours avoir de l'esprit critique. Mais après, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire de plus. C'est vraiment des gens qui sont fermés au débat. Moi, quand je leur demande à mes amis pourquoi ils ont voté Bardella, ils me répondent des trucs mais incohérents. J'ai beau leur annoncer une liste d'arguments implacables, ils ne veulent pas changer d'avis.
C'est impossible d'argumenter.
Mais en plus, moi, j'aime pas trop les débats, alors bon, en général, je laisse tomber, mais c'est terrible. Hein.
Bah, franchement, moi, j'ai quelqu'un dans mon propre foyer qui est vraiment d'extrême droite, du coup, ça crée souvent des conflits, que ce soit à table ou même pendant les repas, des remarques que moi, je trouve vraiment graves. Et en fait, bah, pour la jeunesse, c'est vrai que des fois, on a l'impression que beaucoup la jeunesse est du côté gauche, mais en fait, on se rend compte que pas forcément, en fait. Et peut-être qu'il y a des jeunes qui se rendent pas compte de la gravité des idées de l'extrême droite, rien que dans l'économie, où je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, bah, qui ont pas assez d'argent pour finir la fin du mois, qu'il y a des jeunes qui doivent sauter des repas tellement ils ont pas assez d'argent. Et je me dis, bah, l'extrême droite, on parle pas tant que ça. Alors que la gauche, bah, par exemple, elle en parle beaucoup. Augmenter, par exemple, enfin, baisser le CROUS, aider avec toutes sortes de choses, en fait, qui pourraient aider les jeunes à mieux vivre leur période étudiante.
Avez-vous également peur par rapport à un éventuel recul des droits des femmes, ou êtes-vous pour le coup plus sereine, notamment par rapport à l'entrée dans la constitution de l'IVG ?
Je ne sais pas trop, honnêtement, je pense pas que ça puisse reculer, mais en tout cas ça va pas avancer, c'est sûr, et c'est ce que j'allais dire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout par rapport à l'IVG, mais je suis vraiment contente qu'on l'ait inscrit dans la constitution. Après, je sais pas, je pense pas que ça puisse reculer, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et elles seront pas faites prochainement, quoi.
Bah, moi, je pense aussi un peu pareil. Quand on voit que les personnes d'extrême droite, certaines votent contre l'égalité salariale homme-femme, et bah, en fait, c'est vrai que ça fait peur, parce que je sais pas si on reviendra en arrière, même si là, avec l'avortement, on a vu qu'il y avait des personnes, enfin, beaucoup de personnes qui étaient contre l'inscrire dans la Constitution, mais je pense pas que ça pourra s'améliorer si c'est l'extrême droite qui gagne les législatives.
Dernière question, on est donc forcément dans un état de grande inquiétude, voire même de peur par rapport à l'avenir. Mais là, ce rassemblement là auquel vous avez assisté, la formation de ce Front populaire, est-il quand même malgré tout un motif d'espoir pour vous ?
Oui, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls à penser ça et pas les seuls à trouver ça vraiment absurde. Après, je me rends pas trop compte, parce que moi, je suis surtout entourée de personnes qui pensent comme moi. Et du coup, je me rends pas trop compte de toutes les personnes qui pensent autrement. Bon, c'est pas forcément très bien, parce que c'est bien d'évoluer dans la diversité. Mais c'est pour ça aussi que je suis surprise des résultats, même s'ils avaient été annoncés. Donc, je sais pas, j'espère que les gens vont prendre conscience.
Moi, je trouve ça bien d'avoir organisé un rassemblement pour montrer que bah, voilà, genre, les personnes ont peur, les personnes sont inquiètes et les personnes veulent montrer qu'elles bah, ne sont pas d'accord avec les idées et sûrement les résultats pour les législatives. Mais après, c'est vrai que là, on voit les personnes qui sont pour la gauche, mais s'il y avait une manifestation pour l'extrême droite, est-ce qu'il y aurait plus de monde ? On ne sait pas. En fait, c'est ça qui fait peur. C'est compliqué, quoi.
C'est compliqué, quoi. Nos amis qui votent Bardella sont ceux qui ont séché les cours d'histoire.
Ah, ce ne sont pas mes amis, moi, personnellement.
Oui. Ouais, c'était le titre de mon article. Oui, ouais, parce que ouais, j'ai trouvé cette citation très forte, pour le coup.
Et allez lire ça. Vous allez vraiment lire la rédac pop, s'il vous plaît, amis auditeurs et auditrices. Ouais, c'est le média citoyen et participatif de Radio Campus Orléans. De nouveaux articles depuis hier.
Ouais, tout à fait.
Super intéressants également. L'un sur le ce livre que je viens de finir, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Un entretien avec deux sociologues qui ont écrit ce papier.
Avec Olivier Esteves et Alice Picard, pour être précis. Donc, oui, qui sont effectivement deux des trois sociologues avec Julien Talpin à avoir écrit ce livre qui a été publié au mois d'avril dernier, c'est qui ça. Fait de plus en plus parler de lui. Et c'était en fait un entretien qui me servait à remettre en contexte l'autre papier dont tu allais parler, à savoir celui de cette étudiante musulmane d'Orléans qui est venue nous voir à Radio Campus Orléans. Elle était, elle en pouvait plus, quoi, à force de se prendre des actes d'islamophobie en permanence, constamment. Donc, elle a voulu parler, alors à visage caché. On a aussi trafiqué sa voix, notamment sur les deux extraits de l'interview qui sont également disponibles dans l'interview, dans le papier.
Sur le papier.
Voilà, sur le papier. Mais voilà, elle nous décrit vraiment ce quotidien fait de remarques, d'insultes, de menaces, de remarques sexiste, vraiment, je vous conseille aussi de le lire et d'écouter par la suite l'entretien avec les deux sociologues, parce que justement c'est aussi une façon pour nous de remettre en contexte par des recherches faites par des enseignants-chercheurs, et c'est pas un témoignage que nous publions comme ça au milieu de nulle part, en fait. Ce témoignage là on a vraiment souhaité le recontextualiser aussi par des travaux d'universitaires.
C'est vraiment la double peine pour les femmes musulmanes, parce que non seulement elles subissent l'islamophobie, mais en plus, étant des femmes, les gens se sentent d'autant plus légitimes à pouvoir les rabaisser et leur faire des remarques sexistes dessus, etc.
Une dernière chose, Thomas, c'est qu'on te retrouve également tous les samedis, c'est ça?
C'est l'émission de la Rédac Pop, effectivement. Voilà. Vous aurez l'émission complète ce samedi à 15h, justement autour de La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Donc, on revient sur le témoignage de Selma, c'est le nom qu'on a donné à cette étudiante orléanaise. On a changé son nom, et vous aurez ensuite l'intégralité de notre entretien avec Alice Picard et Olivier Esteves. Et
qui ont écrit ce livre qui est très bien, je viens de le finir vraiment très bien, avec Julien Talpin, que tu connais, Victor.
Ah oui, oui, oui.
Merci à vous trois de la qualité de cette émission. Oui, Steven,
je voulais, une dernière chose rapide. Oui, deux petites choses rapidement. Déjà, on parlait ça en off, mais il y a un truc qui revenait beaucoup pendant le rassemblement, c'est la peur de l'extrême droite qui arrive au pouvoir. C'est un mot qui revenait souvent dans tous les témoignages à les écouter, mais je trouve que ça revenait très très souvent. Et en fait, je voulais le mettre aussi en parallèle avec une enquête d'opinion qui a été réalisée par Elab, qui dit que on a donc 50% des interrogés qui sont inquiets de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les 20% d'indifférents. Il y a 20% d'indifférents à tout ça. Je sais pas sur quelle planète ils vivent, ces gens-là, mais bon. Et pour continuer sur le...
Que ce sont des mâles blancs.
Il y a moyen que ce soit des gens qui vraiment...
Qui avaient aussi quelque chose à annoncer.
Ouais, ce week-end, donc ce samedi 22 juin à 17h, au Temps Moderne, les Temps Modernes reçoivent Régis... Guyota, j'espère que je le prononce bien. Donc un ancien journaliste du Monde.
Je pourrais pas y être. Tu pourras l'embrasser de ma part, réellement,
J'espère pouvoir y être. Ouais. Et donc qui vient nous parler de son dernier livre, L'homme au passe-montagne. Ouais. Et donc il nous parle du fait d'être immigré à Orléans.
Absolument.
Durant les temps 30 glorieuses.
Ça fait des années qu'il enquête dessus.
Et je pense qu'il y a énormément de choses à dire, et surtout avec ce qui se passe en ce moment. Enfin, à Orléans, on a quand même le crack qui est arrivé, un renforcement des
un vrai ami dans le métier. Merci à vous, vraiment l'émission était très bonne, à réécouter en podcast évidemment, mes auditeurs et auditrices. Nous laissons la place pour Raiden, le meilleur du reggae mondial, international, interplanétaire.
Galactique.
Interstellaire. Ah, toujours super cool. L'ami Jay qui s'installe. Et à Radio Campus Tour, c'est du jazz à 21h. On se quitte avec la légende, Angie, Horace Andy. Un single qui sort là. Il reprend Superstition de Stevie Wonder avec Ja Wobble. Un bassiste anglais. Je suis tombé dessus par hasard, mais c'est bon, écoute ça.
Ouais.
À bâton rompu,
ça donne envie.
Reviens mardi prochain. Ciao.
Salut.
Ciao. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstitious ain't the way. Wait.
just ain't the way. Very superstitious writings on the wall. Very superstitious, the devil on the wall.